Service public, Thomas Chauvineau.
Peut-on sortir du nucléaire? À cette question-là, dans ce studio, 4 personnes pour nous répondre. 2 contre. Tout d'abord, Thierry Salomon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur énergétique et président de l'association Négawatt. Négawatt qui publie chez Actes Sud « Changeons d'énergie, transition, mode d'emploi ». Au téléphone, Sophia Majnoni, bonjour.
Bonjour.
Sophia Majnoni, vous êtes chargée des questions nucléaires à Greenpeace France. Et puis, à côté de moi également, Bertrand Barré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des réacteurs au CEA Commissariat à l'énergie atomique, ancien conseiller scientifique d'Areva et co-auteur de « Faut-il renoncer au nucléaire ?». À côté de vous, Yves de Saint-Jacob, journaliste et co-auteur de l'ouvrage « Peut-on sortir du nucléaire ?» aux éditions Hermann. Bertrand Barré, quel bilan tiré de Fukushima? Quel bilan, selon vous, tiré de cet incident nucléaire?
Oh non, c'est pas un incident, c'est un accident. Un accident
grave. Quelle différence faites-vous?
Eh bien, il y a eu des conséquences à l'extérieur. On appelle incident tant que c'est quelque chose qui est limité à l'intérieur de la centrale, des malfonctionnements, éventuellement des erreurs humaines, mais qui n'ont pas de conséquences. Là, Fukushima, c'est un accident, un vrai, c'est une catastrophe. Mais il ne faut pas oublier que c'est une double catastrophe. Ça a commencé par une catastrophe naturelle qui a quand même fait 20 000 morts et qui, malheureusement, a aussi déclenché une catastrophe nucléaire. Alors, quelles conséquences? Eh bien, elles ont été variables suivant les pays, mais on veut dire que globalement, ça va renforcer la sécurité des centrales existantes parce que tous les pays qui ont du nucléaire se sont mis à essayer d'en tirer les leçons de cet accident. En France, on a appelé ça les évaluations complémentaires de sûreté. Dans le reste de l'Europe, on a appelé ça les stress tests. À la suite de quoi, un programme très important de renforcement des centrales existantes est en cours de réalisation. Si on regarde de Sirius sur l'ensemble du monde, ça ne va probablement pas mettre le nucléaire dans le passé, comme vous l'avez dit au début, au contraire, parce que les grands pays qui comptent dans ce domaine, ceux qui ont des grands programmes, la Chine, l'Inde, la Russie, etc., ont bien l'intention de continuer. Et en France, on est un peu fasciné par le cas unique de l'Allemagne, mais c'est un cas unique.
Alors justement, les petits pays qui ne comptent pas comme la France, qui compte quand même 58 réacteurs nucléaires, Bertrand Barré, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer qu'on s'achemine, suite à Fukushima, inéluctablement vers la fermeture du parc?
Pas du tout. En fait, la France, votre question de départ, c'était est-ce qu'on peut sortir du nucléaire? La réponse est oui, évidemment. Est-ce que ce serait une bonne chose? La réponse est non, évidemment. Le nucléaire est un des rares atouts que la France a dans le domaine de l'énergie. On n'en a pas tellement. Sortir du nucléaire, ce serait vraiment se tirer dans le pied.
Sophia Majnoni, vous qui travaillez donc auprès de Greenpeace pour les questions nucléaires, vous êtes habituée à discuter avec Bertrand Barré, puisque vous avez publié un ouvrage « Faut-il renoncer au nucléaire ?» où vous confrontiez vos points de vue. Même question pour vous, quel bilan tirez-vous de ce qui s'est produit à Fukushima?
Alors, si vous me permettez, je pense qu'il est important de rappeler avant tout que on ne peut pas tirer aujourd'hui un bilan de Fukushima parce qu'en réalité, les conséquences d'une catastrophe nucléaire, elles se font sentir sur plusieurs dizaines d'années. L'accident lui-même n'est pas terminé. La société TEPCO fait encore face notamment à des fuites importantes dans le sol et dans le sous-sol. Les cœurs fondus gisent toujours sur le sol des réacteurs et n'ont toujours pas été retirés. Ça prendra une dizaine d'années pour les retirer, puis il faudra 30 à 40 ans pour démanteler la centrale. Les conséquences sanitaires vont à peine commencer à se faire sentir. Vous savez que l'impact de la radioactivité, on peut le retrouver sur plusieurs générations. On entend par exemple des histoires où des femmes japonaises décident d'avorter ou de ne jamais avoir d'enfants pour éviter les malformations génétiques. Et puis on est aussi au début des conséquences économiques. Pour l'instant, on chiffrait à 200 milliards d'euros le coût de la catastrophe de Fukushima. Ce week-end, vous avez dû voir l'article du JDD qui publiait une évaluation de l'IRSN où il était question de 1000 milliards d'euros comme coût final de la catastrophe de Fukushima.
Bertrand Barré fait des grimaces. Vous ne le voyez pas, mais il en fait beaucoup. Sophia Majnoni, je n'ai pas l'impression qu'il soit d'accord avec vous.
C'est que nous sommes au début de cette catastrophe et qu'il faudra attendre plusieurs dizaines d'années pour tirer un bilan économique, sanitaire de la catastrophe de Fukushima. Après, son impact à l'extérieur, je pense qu'il a été significatif. Et pour ça, on peut prendre le cas de la France, qui, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, n'est pas un petit pays nucléaire. La France a le deuxième parc de réacteurs au monde et le Japon a le troisième parc de réacteurs au monde. Donc l'impact de Fukushima, il est d'ores et déjà aujourd'hui 50 réacteurs nucléaires au Japon qui sont à l'arrêt et dont on ne sait pas s'ils redémarreront un jour. Et puis en France, une promesse présidentielle de baisser la part du nucléaire à 50% et donc inéluctablement de fermer une partie du parc nucléaire.
Alors justement, au Japon, il n'y a plus que 2 centrales sur 50 qui fonctionnent. Et pourtant, Yves de Saint-Jacob, le Japon continue à fonctionner. Alors pourquoi ne pas suivre le même fonctionnement en France ?
Ben justement, c'est tout de même l'un des enseignements de Fukushima. C'est aussi que 2 ans après la catastrophe, il y a un gouvernement au Japon pour lequel la population, même si elle est traumatisée par Fukushima, a voté et a mis au pouvoir, qui envisage de relancer le nucléaire et de rouvrir un certain nombre de centrales.
Pour l'instant, ça n'est pas fait.
Ce n'est pas fait, mais c'est leur intention.
Mais puisqu'aujourd'hui, 2 centrales sur 50 sont encore opérationnelles.
Eh bien, justement, les difficultés économiques sont telles que le gouvernement envisage quand même d'en rouvrir. Et il n'est pas ici question de s'en féliciter ou de ne pas s'en féliciter. C'est simplement de montrer qu'un arrêt brutal du nucléaire, si on arrête brutalement le nucléaire dans un pays qui repose sur lui, cela pose des questions économiques lourdes. Donc il y a un coût de l'accident nucléaire. Sophia Majnani parlait de 1 000 milliards d'euros ou de dollars, 1 000 milliards d'euros.
Il y a aussi un coût,
parce qu'on peut toujours se lancer des chiffres. Le groupe Siemens en Allemagne a estimé à autour de 15 1500 milliards d'euros le coût sur 20 ans de la sortie du nucléaire.
Mais est-ce que ça, justement, c'est justement pas l'un des inconvénients du nucléaire ? C'est le fait qu'on nous ait dit que cette énergie était une énergie bon marché et maintenant on se rend compte que le démantèlement est hors de prix.
Oui, sans aucun doute, il y a des coûts qu'il faut calculer. Encore une fois, il faut toujours dans les coûts faire très attention. Qu'est-ce qu'on inclut et sur quelle durée ? Et il faut regarder également quels sont les coûts de l'énergie, c'est-à-dire le coût du kilowattheure.
Thierry Salomon, selon vous, est-ce que le coût du démantèlement est tel que cette énergie qui nous a été présentée comme une énergie bon marché, on parlait par exemple de 50 centimes d'euros du kilowattheure en termes de production pour EDF, est-ce qu'aujourd'hui on est obligé de réviser tout cela à la hausse ?
Le nucléaire se caractérise par une inflation des coûts quand on commence à avoir un petit peu de vérité sur ceci. Il y a eu enfin, et à la demande des associations et des ONG, un rapport de la Cour des comptes l'année dernière qui a pu mettre noir sur blanc un certain nombre de coûts. Et on réclamait évidemment ce rapport depuis longtemps. Ce que je constate, c'est que j'ai participé au débat public sur l'EPR. Il était annoncé à 3,2 milliards d'euros à ce moment-là. Les derniers chiffres aujourd'hui sont à 8,5.
Très bien, on nous dit que c'est pour notre sécurité.
Multiplication pratiquement par 3.
On nous dit que c'est pour notre sécurité.
Oui, ok, mais à ce moment-là, on arrive au niveau des coûts de l'énergie électrique à des niveaux qui maintenant vont être rattrapés extrêmement vite et commencent déjà à l'être, à la fois par l'éolien terrestre et dans quelques années par le photovoltaïque. On a même déjà maintenant des pays sur lesquels le photovoltaïque est au niveau du coût du réseau. Cette inflation, on le retrouve également au niveau des déchets, passé de 15 à 45 milliards, et on le retrouve sur l'énorme incertitude du coût du démantèlement qui a été fixé à 15% du coût des centrales. Et actuellement, on n'a strictement aucun coût et on demande la publication maintenant de tel coût et tel engagement.
Alors effectivement, Bertrand Barré, on a cette difficulté-là à laquelle s'ajoute la mise aux normes de sécurité donc du parc nucléaire français, puisqu'après Fukushima, on a dit qu'il fallait de nouvelles normes de sécurité. Ces normes coûterait 10 milliards d'euros supplémentaires. Tout ceci est extrêmement difficile à évaluer. Mais enfin, est-ce que l'argument économique pour le nucléaire n'est pas en train de sombrer suite à la catastrophe japonaise ?
Non. Le rapport de la Cour des comptes qu'évoquait Thierry Salomon dit justement qu'en France, après la grande hydraulique, l'énergie est la moins chère. Maintenant, effectivement, les coûts que vous mentionnez, 10 milliards d'euros sur l'ensemble du parc, ce n'est pas de nature à changer cette classification. Alors, j'aimerais répondre à deux choses, le démantèlement et l'EPR. Le démantèlement, en France, on n'a pas d'expérience. Donc, effectivement, on peut très bien mettre en cause des coûts qui étaient des coûts prévisionnels. Ces coûts, quand même, pour l'instant, sont provisionnés. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'expérience en France. En revanche...
Ils sont provisionnés à un certain niveau.
Oui, ils sont provisionnés.
Ils pourraient se révéler largement supérieurs, Bertrand
Barré. De façon à couvrir 15% du coût de construction. C'est un chiffre absolument exact.
Mais théorique.
Mais quand on dit... Non, ce n'est pas énorme. Mais quand on dit...
Oui, ce n'est pas énorme. Je suis d'accord avec vous.
C'est très peu.
Mais quand on dit qu'on n'a pas d'éléments, en revanche, je vous dis, aux États-Unis, on a déjà démantelé des réacteurs qui sont tout à fait analogues aux nôtres, c'est-à-dire des réacteurs à eau sous pression. On en a démantelé de 600 MW à 1100 MW, donc tout à fait dans la fourchette que sont les premiers des nôtres, qui sont des 900 MW. Et les coûts constatés pour un démantèlement complet ont de l'ordre de 500 millions de dollars. Donc on a tout à fait un ordre de grandeur. On n'est pas du tout dans le noir et ce n'est pas des coûts astronomiques. Alors sur l'EPR, là encore, Thierry Salomon a raison, il a été annoncé au départ à des coûts extrêmement bas, pas très crédibles. En revanche, les coûts actuels sont des coûts d'un prototype. Or, les prototypes, dans toutes les industries, vous n'avez qu'à voir dans l'industrie aéronautique par exemple, ça prend beaucoup plus longtemps à construire qu'on croyait, ça coûte beaucoup plus cher qu'on croyait. Mais on a déjà un début de retour d'expérience, puisque des EPR, il y en a 4, il y en a 2 en construction en Chine. Eh bien, ceux qui sont en construction en Chine se construisent à peu près 2 fois plus vite que celui de Flamanville.
Alors effectivement, Sophia Macheneny est pour Greenpeace. On nous a dit que les coûts supplémentaires pour l'EPR étaient liés donc à la sécurité. Ça, évidemment, on s'en félicite. De surcroît, on présente l'énergie nucléaire comme étant une énergie verte s'il n'y a pas de catastrophe et si on réussit à retraiter les déchets. Alors est-ce que ça n'est pas une raison pour que Greenpeace change d'avis sur le nucléaire ?
Vous savez, le meilleur moyen d'assurer la sécurité du système énergétique, c'est d'éviter d'avoir recours à des technologies dangereuses. Quand on nous dit, bon, l'EPR, il va produire une électricité à 2 fois le prix du marché, peut-être même 3 fois le prix du marché, mais bon, il sera plus sûr, bah, à ce compte-là, pourquoi est-ce qu'on ne se passe pas de l'EPR et qu'on passe sur des technologies qui, elles, ne comportent pas un risque de contamination majeure de l'environnement et des personnes ? Moi, il y a des arguments que je ne peux pas entendre. On me dit... En Chine, le réacteur EPR se construit 2 fois plus vite. Mais qu'est-ce qui ralentit les chantiers en France et en Finlande ? C'est la sécurité. C'est les contrôles des autorités de sûreté qui sont indépendantes et qui vérifient les pièces, qui les renvoient à la fabrication si c'est nécessaire, si elles sont mal manufacturées. En Chine, ça n'existe pas. L'indépendance de l'autorité de sûreté nucléaire chinoise, elle n'existe pas. Mmh. Alors oui, le chantier va 2 fois plus vite. Mais utilisez l'exemple chinois, alors qu'aucun média n'est capable d'expliquer comment ça se passe concrètement sur les chantiers chinois, quelles sont les conditions de travail des salariés. Utilisez cet exemple pour dire « Oh non, mais nous avons un retour d'expérience », c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, EDF veut construire des réacteurs EPR au Royaume-Uni et qu'elle donne exactement le même montant que celui des réacteurs EPR français et finlandais, à savoir 8,6 milliards d'euros, soit plus de 100 euros le mégawatt-heure, donc 2 fois le prix de l'électricité produite aujourd'hui.
Mais justement, Sophia Macheneny, comme il est évidemment essentiel d'avoir une autorité de sûreté nucléaire qui soit indépendante et fiable, est-ce qu'on ne pourrait pas, comme nous le dit un auditeur, imaginer une autorité telle en France que une catastrophe comme celle de Fukushima qui a été provoquée, dit-il, par des erreurs stratégiques et une avidité financière de la compagnie TEPCO ne soit pas, en quelque sorte, un risque en France.
Mais qu'est-ce que vous pensez qui se passe en France depuis les dernières années avec le changement de statut de la société EDF ? Qui est devenue une société anonyme. Il se passe la même chose qu'au Japon. EDF pressurise ses sous-traitants, demande à ce qu'on réduise les coûts de la sûreté, à ce qu'on réduise par exemple les temps des arrêts des réacteurs nucléaires pour maintenance et met une pression financière énorme sur les gens qui travaillent sur les centrales nucléaires. Donc cette réalité du marché, elle existe déjà. En fait, le nucléaire n'est pas une technologie adaptée à un monde libéralisé, à un marché ouvert et compétitif. Le nucléaire n'est pas compétitif. s'il ne bénéficie pas de soutien public fort, s'il ne bénéficie pas d'un régime d'exception. Le nucléaire est la seule industrie qui n'a pas à assurer ses centrales à hauteur de la réalité du risque. Le nucléaire est la seule industrie qui bénéficie d'un régime d'exception pour ses déchets nucléaires. C'est une industrie qui, si elle ne dispose pas d'un régime spécifique, ne peut pas être compétitif. Et on voit bien que le post-Tchernobyl, le post-Fukushima tirent en permanence les coups vers le haut. Et on est aujourd'hui dans une situation où la question en France n'est pas « est-ce qu'on va sortir du nucléaire ?» La question est « quand est-ce qu'on va sortir du nucléaire ?» Les centrales, elles n'ont pas été construites avec une durée de vie illimitée. Elles devaient fonctionner 30 ans. Après, là, EDF nous a dit 40 ans, puis maintenant on entend 60 ans. Mais tout ça, ça a des conséquences sur la sûreté.
Alors, justement, Yves de Saint-Jacob, comme nous le dit Simon dans un mail qu'il nous adresse, est-ce que l'on ne va pas être obligé finalement d'arrêter le nucléaire, non pas pour des considérations écologiques, mais tout simplement parce que le risque financier devient inassurable?
Oui, la question de la compétitivité des énergies, compétitivité entre elles, est importante, mais il y a aussi un autre aspect. Dans le livre que j'ai écrit avec le professeur Fauss des arts et métiers, on a esquissé quelques scénarios à l'horizon 2050 et on a fait des scénarios où on a développé au maximum les énergies renouvelables, où on a réalisé des économies considérables dans le monde occidental, puisqu'on prévoit moitié moins de consommation d'énergie dans le monde occidental, ce qui nous rapproche des hypothèses de négawatts d'ailleurs. Eh bien, malgré ce développement considérable des renouvelables, malgré des économies drastiques qu'il sera difficile de faire passer politiquement, le monde risque sans doute de manquer d'énergie à l'horizon 2050. Et il risque de manquer d'énergie pour des raisons simples. D'une part, la progression de la population. On est passé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, à 7 milliards. Et tout le monde est d'accord qu'on sera à 10 milliards en 2050. Ce n'est pas un taux effréné de progression, mais c'est des masses considérables. Il y a chaque jour l'équivalent d'une ville comme Bordeaux qui arrive sur la planète. Chaque jour. Le deuxième phénomène, c'est que depuis la mondialisation, il y a les pays qu'on appelait autrefois en voie de développement, ce qui était une façon polie de ne pas les vexer, sont maintenant réellement en développement et ils ont un besoin d'énergie énorme pour ce développement. Et donc, il faut pas trop regarder la situation française-européenne. Il faut regarder cette situation au niveau planétaire.
Effectivement. Et c'est ce que vous prévoyez dans votre ouvrage, Yves de Saint-Jacob, une multiplication par 5 des besoins en énergie d'ici 2050, d'après donc le scénario que vous établissez. On continue à en parler tout de suite après Laura Cahen, Mon Loup. Service public sur France Inter, y a-t-il un loup dans le nucléaire? Peut-on sortir du nucléaire? En compagnie de Thierry Salomon, ingénieur énergéticien, président de l'association Négawatt, qui publie « Changeons d'énergie », Bertrand Barré, qui est ancien conseiller scientifique d'Areva et qui publie avec Sophia Majnoni, qui est également au téléphone avec nous, « Faut-il renoncer au nucléaire ?» et Yves de Saint-Jacob, journaliste et co-auteur de l'ouvrage « Peut-on sortir du nucléaire ?» aux éditions Hermann. Thierry Salomon, l'une des questions liées au nucléaire, c'est aussi évidemment les déchets. Que faire de ces déchets? Sont-ils aujourd'hui retraités de manière sûre? Quel est votre avis à ce sujet?
Eh bien, on constate que là, on est en pleine déficience sur une filière. Autrement dit, depuis la première pile atomique de Fermi en 1943, eh bien, on ne sait pas traiter et éliminer complètement les déchets. Donc, quelque part, on va les stocker et on fait un peu les autruches de l'énergie. Autrement dit, on fait un grand trou et puis on va le mettre dedans en espérant que derrière, on va pouvoir ne pas avoir de difficultés sur des centaines et voire des milliers d'années.
Est-ce qu'aujourd'hui, on a des expériences de catastrophes liées aux déchets ou liées à la manière dont ceux-ci sont conservés?
La difficulté, si vous voulez, elle est aussi dans le stockage des déchets dans les piscines nucléaires. Autrement dit, là, il y a également un risque important et on le voit bien à Fukushima où un des risques potentiels très importants qui reste actuellement est sur la piscine qui sert du réacteur numéro 4 qui sert à stocker les déchets. On est véritablement encore à la merci d'un tremblement de terre important sur une construction qui est beaucoup de difficultés à être renforcées et qui pourrait créer de nouveau une catastrophe majeure.
Bertrand Barré, vous qui êtes ancien conseiller scientifique d'Areva, qu'en pensez-vous? Sait-on aujourd'hui traiter les déchets de manière suffisamment sûre pour qu'on puisse poursuivre l'exploitation de ces centrales nucléaires?
Là encore, je vais répondre oui, ça ne vous surprendra peut-être pas beaucoup. D'ailleurs, jeudi dernier, j'ai
Ce que nous attendons, ce sont vos arguments.
Le jeudi dernier, j'ai justement visité le laboratoire de Bure, c'est-à-dire l'endroit où l'ANDRA, l'Agence nationale chargée de la gestion finale des déchets, est en train de faire des études de la couche d'argile où on envisage de faire le stockage définitif de ces déchets. D'ailleurs, à partir de mai-juin, va s'ouvrir un débat public sur le choix du site de ce stockage, donc qui s'appelle CIGEO. Et donc, on aura l'occasion sûrement d'en reparler.
Ça, c'est de l'enfouissement profond.
Je n'aime pas trop le terme enfouissement. C'est
vous préférez le thème creusement.
C'est du stockage dans une installation construite dans une couche géologique profonde qu'on a choisie parce que l'argile a des qualités assez exceptionnelles, notamment si par hasard, par entrée d'eau qui n'est déjà pas très probable, on réussissait à dissoudre des blocs de verre, ce qui prend énormément de temps, eh bien, l'argile elle-même repiégerait tous les noyaux de gros diamètre, c'est-à-dire ceux qui sont de longue durée de vie. Donc, à l'heure actuelle, les simulations, les calculs qu'on fait, avec des marges énormes, bien sûr, montre que le risque maximum pour sortir simplement de la couche d'argile, hein, encore il y aura 500 mètres à remonter après ça, ça prendrait à peu près 300 000 ans. Et à ce niveau-là, la dose aux gens qui seraient au-dessus, à l'exutoire, serait à peu près 1000 fois inférieure à celle qui est autorisée aujourd'hui. Donc franchement, je pense que c'est assez étonnant que l'industrie nucléaire ait pris à l'avance tellement de précautions pour un risque qui ne se manifesterait que dans plusieurs centaines de milliers d'années. Je ne connais pas d'autres exemples.
Alors, en tout cas, il y a déjà des lieux où la transition énergétique a eu lieu. C'est par exemple le cas au niveau local de la ville de Montdidier dans la Somme. Cette ville fabrique et distribue sa propre électricité aux 6500 habitants. Thomas Chevinot, notre reporter, est allé à la rencontre du maire Catherine Quignon-le-Tyran, un maire socialiste au pied des éoliennes qui alimentent la ville.
Ça fait un bruit, là. Petit bruit de fond.
Là, on est au pied d'une des quatre éoliennes qu'alimente la ville.
Tout à fait. Donc, chacune de ces éoliennes publiques, hein, ce sont les seules de France, grâce à ces quatre-là, nous couvrons 53% des besoins d'une ville de 6500 habitants, commerce, services, industrie et particuliers.
Et donc, l'électricité chez vous, c'est une électricité municipale.
Tout à fait, ça s'appelle la régie communale d'électricité de Montdidier.
Et alors, comment ça se passe ?
Dès que vous êtes dans Montdidier, au lieu d'avoir une facture EDF, SICAE ou autre, eh bien vous avez une facture régie. Donc sur le prix qui est facturé à nos habitants, le prix étant nationalisé de l'énergie, nous avons le même coût du kilowatt. Par contre, sur les taxes qu'on appelle les taxes municipales, là, nous avons baissé. Donc, nous sommes actuellement à moins 1,2% sur la facture. Nous allons descendre là à moins 3,2%. Et puis, nous avons aussi une politique incitative de maîtrise de l'énergie qui vise à aider donc nos habitants à se doter de poêles à bois, de chauffe-eau solaire pour pouvoir alimenter justement leur douche, etc. Pour vous donner une idée, on peut aller jusqu'à 400 € d'aide sur un poêle à bois d'une valeur de 1 000 €. Conclusion, il ne revient qu'à 600 €.
Mais pardon, mais où ? Parce que Montdidier, on ne peut pas dire que ce soit Neuilly, vous voyez. Où est-ce que, excusez-moi, sans être. Mais où est-ce que vous trouvez le financement pour ça ?
Alors, c'est parce que nous ne sommes pas Neuilly, parce que nous avons peu de moyens, que nous avons dû réfléchir. Et lorsque les gens réfléchissent, je pense que quelque part, ils ont des ambitions que les autres n'ont peut-être plus. On va aller sur la centrale, et là, vous aurez l'impact de tout ce que l'on fait.
C'est la voiture qui est là ?
Oui. Voiture 100% électrique. Allez, c'est parti. Je supplie.
Ah, puis vous chantez dans la voiture, il n'y a pas d'autoradio peut-être dans les voitures électriques.
Si, vous voulez que je vous le mette ?
Non, ça va.
Mais je chante tout le temps, c'est mon tempérament. Je suis d'un naturel un peu optimiste, donc voilà.
Et on est arrivé ? Alors, sur la porte, une plaque, c'est écrit « Régie communale de Montdidier ».
Tout à fait, avec l'emblème de Parmentier, puisqu'en plus, Parmentier, qui était un humaniste, est né ici. Il a permis de lutter contre la famine. Nous, on lutte contre la précarité énergétique. C'est peut-être ça, finalement, le sens de cette ville.
Allez, voilà, on rentre dans la régie.
Sur le poste de contrôle.
Bon, c'est une grande armoire électrique, un peu comme à la maison, en plus grand, quoi.
Oui, ou comme un très gros congélateur avec plein de chiffres. 08. Quand on a cet indicateur, en gros, ça signifie pour nous qu'à Montdidier, avec nos éoliennes, non seulement on couvre tous les besoins là en instantané à cette heure-ci.
Là, aujourd'hui, maintenant.
Là, maintenant, là, à l'instant T, tous nos besoins sont couverts et on renvoie là 0,9 mégawatts sur le réseau, donc à l'extérieur de Montdidier.
Que vous revendez ou...
Qu'on revend. Ah bah oui.
Quand même, il n'y a pas de petit profit.
Ah quand même, bah oui, quand même. La commune peut gagner de l'argent et c'est grâce à cela qu'elle continue à financer ses opérations. C'est pour ça qu'on peut faire des aides directes aux particuliers. C'est pour ça que nous avons pu
comme
financer...
l'achat des poêles.
Comme l'achat des poêles, l'achat des vélos. On a pu isoler par l'intérieur et l'extérieur des bâtiments tels que des écoles. Donc on consomme 60% de moins d'énergie dans nos écoles. On a pu construire un réseau de chaleur au bois, ce qui fait économiser à l'hôpital de Montdidier 80 000 euros par an sur ses factures. Donc toutes ces politiques, elles peuvent être conduites parce qu'à un moment donné, on récupère sur nos investissements un peu de bénéfices. Si demain, on arrive à installer une méga éolienne à Montdidier, ça voudra dire que l'usine qui est à 30 km, au lieu d'en fabriquer une, en fabriquera peut-être 100, 150, 200, 1000, je n'en sais rien. Mais en tout cas, le process français existera et ça créera de l'emploi et ça contribuera à nos efforts. Et c'est en cela que la transition énergétique, après, puisque maintenant c'est le grand sujet d'actualité, s'est imposée à nous. C'est-à-dire que petit à petit, à force d'étudier, vous optimisez tout le temps et vous découvrez. Vous savez, c'est comme un menu. J'aime le steak, après j'aime le steak au poivre, j'aime le steak au roquefort, mais j'aime quand même le steak.
France Inter, service public.
Le reportage de Thomas Chauvineau, Sophia Majnoni. On vient d'entendre un cas de transition énergétique, mais à l'échelle d'une ville. Plus globalement, que préconise Greenpeace en matière de transition énergétique?
Mais j'ai presque envie de vous dire que cette interview, elle disait tout, en fait. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir, c'est ça la clé pour trouver des idées. Donc il y a un mois, Greenpeace a publié un scénario de transition énergétique qui est une proposition. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment est-ce qu'on pourrait sortir du nucléaire? Évidemment, l'efficacité énergétique, comme elle le dit, cette dame, l'optimisation de notre consommation, c'est l'un des postes prioritaires pour arriver à répondre à nos besoins sans produire de l'électricité de façon démesurée, de l'électricité qui est gaspillée en réalité. Donc évidemment, efficacité avant tout. Ensuite, dans notre scénario, on s'appuie énormément sur le développement de l'éolien, notamment l'éolien terrestre. Il faut savoir que la France a le deuxième potentiel éolien terrestre d'Europe. Nous sommes vraiment un gisement en termes de ressources vent que nous n'exploitons pas aujourd'hui pour des raisons principalement de contraintes administratives. On a mis des éléments bloquants pour le développement du secteur éolien. Il faut lever ces éléments et le potentiel éolien est gigantesque en France. Et puis ensuite, l'électricité photovoltaïque, qui est une deuxième grosse source de production à partir d'énergies renouvelables que nous développons énormément dans notre scénario. Ce que nous avons conclu, c'est que même si on développait énormément les voitures électriques, qui est une option choisie par le gouvernement, nous pourrions nous priver de l'électricité nucléaire à horizon 2031.
Donc ça
veut dire qu'en 18 années, on peut fermer nos 58 réacteurs.
Donc ça, c'est la vision de Greenpeace. Yves de Saint-Jacob, est-ce que vous partagez cette vision en matière de transition énergétique?
Oui, il est évident qu'il faut développer toutes les idées possibles. Mais encore une fois, vous allez dire que je suis obsédé par la planète dans son ensemble. Les solutions en France, en Europe, ne sont pas les mêmes que les solutions en Chine.
Vous voulez dire que l'augmentation des besoins énergétiques
voilà,
est telle qu'il faut...
Et notamment sur la Chine, il est intéressant de noter que la Chine, elle est la championne des énergies renouvelables, l'éolien photovoltaïque, elle est la championne du développement nucléaire, elle est la championne du charbon, malheureusement. Et donc, ce sont des pays où il faut tout développer, et ils essayent de tout développer.
Thierry Salomon, vous, justement, vous travaillez pour l'association Négawatt à ces scénarios de transition énergétique. Qu'est-ce que vous en pensez?
On parle d'électricité, là, pour demain, et tout de suite, on dit les pays en développement, la Chine, etc. Je pense que le nucléaire n'est pas adapté à un très grand nombre de pays. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une énergie qui est très centralisée, sur laquelle il faut, derrière les autorités de sûreté nucléaire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut passer à une transition énergétique telle qu'elle a été mise en œuvre au niveau de Montdidier. On a fait, nous, au niveau de l'association Négawatt, tout un travail de scénarisation extrêmement précis jusqu'à 2050 pour la France et qui montre que c'est possible.
Non, mais par exemple, lorsque l'on évoque l'éolien, on sait que l'éolien pose d'autres problèmes et qu'il y a des adversaires de l'éolien en France, notamment en raison des modifications qu'il instaure dans le paysage. On sait que l'éolien pose aussi un certain nombre de problèmes sur le plan écologique lorsqu'il faut produire les éoliennes. Est-ce que tout ceci, Thierry Salomon, ne devrait pas atténuer notre enthousiasme ?
Non, parce qu'il ne faut pas regarder uniquement nucléaire contre éolien. C'est vers un mix énergétique en termes de production d'électricité
donc
qu'il faut s'orienter.
Donc, vous conservez quand même des centrales nucléaires dans votre scénario de transition énergétique ?
C'est un scénario sur lequel la sortie du nucléaire est vers 2033, assez analogue à l'estimation de Greenpeace. Il y a un point qui est extrêmement important, c'est celui de développer une véritable politique de sobriété et d'efficacité énergétique, c'est-à-dire de réduire la demande d'énergie à usage identique, bien sûr.
Bertrand Barré, j'imagine que ce scénario de transition énergétique, il ne vous convient pas. Est-ce que malgré tout, on pourrait y imaginer fermeture d'une partie des centrales françaises? On parle de la fermeture de Fessenheim. Est-ce que ce n'est pas le début de la fin, finalement, pour cette énergie que vous appréciez, malgré tout, le nucléaire?
D'abord, je voudrais dire que la transition énergétique, ce n'est pas la transition électrique. Si on regarde l'ensemble du problème, notre problème, c'est avant tout le pétrole et le gaz. L'électricité, c'est vraiment après. Il ne faut pas oublier ça. On paye quand même chaque année 70 milliards d'importations de pétrole et de gaz. 70 milliards d'euros, c'est quand même pas rien. Avec ça, on peut se payer 8 EPR par an, si vous voulez. Donc, faut voir. Donc, il ne faut pas prendre le petit bout de la lorgnette. L'électricité, c'est un problème qui est qu'une toute petite partie de la transition énergétique. Et ça m'ennuie qu'on ne parle que de ça. Par ailleurs, je pense que la sobriété énergétique, personne ne peut être contre. Bien sûr que c'est bien. Mais pour autant, pour moi, on peut obtenir plus de sobriété, beaucoup, beaucoup moins de gaz à effet de serre, tout en maintenant ou en augmentant la part de l'électricité. Parce que beaucoup de processus, quand on passe par l'électricité, ont un meilleur rendement.
Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de vos ouvrages car ceux-ci sont nombreux ce matin. Jacques Fauss et Yves de Saint-Jacob. Peut-on sortir du nucléaire? Faut-il renoncer au nucléaire? Une conversation entre deux individus qui ne sont pas d'accord, Bertrand Barré et Sophia Majnoni. Et enfin, l'association Négawatt. Changeons d'énergie aux éditions Actes Sud.